Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir avec vous, eh bien, de vous donner une feuille et, en fait, d'abord de prendre quelques minutes pour individuellement remplir cette feuille. Et puis, vous voyez que les langues que vous connaissez avec des connaissances partielles, des connaissances diverses, et puis vous les connaissez en production orale, compréhension orale, compréhension écrite ou production écrite. Vous mettez, si vous voulez mettre un mot dans ces différentes cases, eh bien, vous pouvez, ou vous mettez juste un point, une croix, ce que vous voulez, et vous essayez de faire un peu le point sur votre propre répertoire.
Ça réinterroge beaucoup notre origine régionale, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure concernant la langue qu'on a le droit de parler à l'école ou qu'on n'a pas le droit de parler à l'école, c'est vrai que moi je viens du Nord, donc voilà, avec le ch'ti qu'on n'avait pas le droit de parler à l'école et on était souvent repris. Et du coup ça réinterroge beaucoup ces questions de quelles sont les langues que je connais et quelles sont celles que je parle et quelles sont celles que je parle sans honte quelque part et celles que... qui reste encore une honte, plus ou moins, mais c'est vrai quand même que ça persiste, cette idée, quoi. Et du coup, ça nous interroge sur les enfants aussi et sur les pratiques de classe où on entend parfois encore des maîtresses dire « Ici, tu parles pas arabe. Ici, c'est l'école, tu parles français. » Et bon, voilà, c'est, quelquefois, c'est des choses qui nous réinterrogent.
Non, c'était pour rebondir sur ce que disait Corinne, c'est... Simplement, on voit aussi, ça nous interroge aussi sur la domination que peut avoir une langue. Donc moi, j'ai eu l'occasion de me rendre dans un pays africain, au Bénin, et il est demandé aux élèves qui arrivent dans les classes de parler français et d'oublier un petit peu leur langue maternelle. Et donc c'est vraiment toute la difficulté.
Et ça renvoie aussi peut-être à la question de... Qu'est-ce que c'est que le bilinguisme, finalement? Quand on dit qu'on est un bilingue parfait, c'est comme apprendre à...
Ça renvoie aussi au langage des jeunes dans certains quartiers et qui ont un langage qu'on ne comprend pas et qui est créé de toutes pièces, mais qui circule quand même, parce qu'il passe dans certaines régions et on le retrouve à un autre moment dans d'autres régions. Donc, quelque part, c'est aussi... Alors, est-ce que c'est une langue? Est-ce que c'est une variante
Bon, je crois qu'avant la pause, moi, je voulais peut-être reprendre... à haute voix, des choses que j'ai entendues ou qui m'ont interpellée. Par exemple, que quand un élève est à l'école maternelle en petite section, en moyenne section, et qu'il porte la langue familiale, le turc ou l'arabe, ce que j'ai compris d'après ce que Christiane disait, c'était que eh ben là, en entrant à l'école, il était en train de se construire un bilinguisme simultané. Puisque le langage se construit jusqu'à 4 ans, finalement, est-ce qu'on est dans le successif ou dans le simultané? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est encore en train de construire le langage. Et quand un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, lui dit « tu ne parles pas bien français » par rapport à ce qu'on suppose qu'il parle turc ou qu'il parle arabe, ça peut poser question. Ce genre de question qui m'est venue. Quand j'ai vu les dessins aussi sur les représentations, comment les enfants dessinaient les langues, on voit à quel point ou à quel... comment les stéréotypes peuvent se créer, mais vraiment très très jeunes, quoi. On peut parler en termes de représentation, mais une représentation négative, c'est un stéréotype, et qu'il ne faut pas grand-chose. Pourquoi? C'est vraiment quelque chose qui peut s'élaborer très très tôt et que nous, à l'école, on a tendance à dissocier finalement ce qui est de l'ordre de la langue et de la culture et que ces dessins, ils nous renvoient comment il y a presque dans ces moments-là, c'est indissociable. Hein, quand on se construit des représentations sur le chinois avec des baguettes, il y a quelque chose, là, il y a un phénomène, je ne sais pas comment on peut... Et pourtant, après... dans notre travail, on est bien, on en arrive à être obligé de dissocier tout ça pour l'organiser. Et puis aussi, autour de l'image de Chaska, le travail du détour, je crois que c'est intéressant par rapport à la charge affective que de passer par le détour pour que l'enfant puisse après amener ses propres langues, j'ai envie de dire. Mais aussi, ça évite l'assignation identitaire et linguistique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignant, et ça je serais un peu péremptoire pour reprendre le discours de Christiane Perrego à un autre moment, ce n'est pas à l'enseignant de décider que tel enfant parle ou telle langue ou pas. C'est un peu à l'enfant, à sa famille, de pouvoir le dire à un moment donné s'il souhaite le dire. Hein ? Si on est dans l'attribution, dans l'assignation, d'abord, des fois, on se trompe. Hein, il y a de multiples exemples. Je crois que c'est dans le livre de Martine Chomenowski qui a fait une étude sur les enfants maliens à Montreuil, où, en toute sincérité, l'enseignant lui dit « parle-moi de la langue de ton pays », parce qu'il était noir, il était malien. Et lui, il dit « Mais moi, mon pays, c'est Montreuil. » Oui, oui, mais alors parle-moi de ta langue. Oui, mais moi, ma langue, c'est le français. Donc, on en arrive parfois. Et donc, je crois qu'il faut donner la possibilité de dire ou d'affirmer, mais pas l'imposer, quoi. C'est un peu des choses où on peut faire des dégâts. Et puis aussi, le dernier schéma là, de la définition de Gompers qui a été traduit, c'est ce mouvement du répertoire, quoi, voir quelque chose que c'est vivant, dynamique. Et puis aussi, j'ai envie de dire, un usage peut-être, je ne sais pas vos expériences, moi, il y a des langues que j'ai oubliées. C'est-à-dire que cette vivacité de la langue ou cette dynamique de la langue fait qu'à un moment donné, si on n'en a pas l'usage, on oublie. Hein, et puis, ça fait partie des cycles du travail, quoi. Voilà. Alors, sauf s'il y a des réactions immédiates, on pourrait prendre une pause 10 minutes, hein, 10 bonnes minutes. On va aérer la salle, on va parce qu'il fait chaud. Et puis, à tout de suite.
Merci. Nous allons reprendre deux éléments pendant le temps qui nous reste. D'abord, je vais vous donner quelques informations et je vais prendre en tout cas deux activités de l'éducation et l'ouverture aux langues à l'école ou l'éveil aux langues tel qu'on en parle assez fréquemment, vous en avez peut-être entendu parler, et l'éveil aux langues qui est pratiqué dans un certain nombre de classes. Et j'aimerais que vous voyez un peu ce qu'il y a sous cette étiquette éveil aux langues. L'éveil aux langues, premièrement, n'est pas l'apprentissage des langues, et c'est une ouverture, une sensibilité, une reconnaissance de la pluralité linguistique, à la fois dans un environnement extrêmement large et du coup dans un environnement plus restreint qui est celui de la classe. Et ces objectifs de l'éducation et l'ouverture aux langues ou éveil aux langues, ça c'est exactement les mêmes termes, simplement en Suisse nous avons appelé cela EOL, éducation et ouverture aux langues à l'école, puisque ça ne s'adresse pas qu'aux très jeunes enfants. Si vous voulez, le terme éveil avait une connotation plutôt pour les jeunes enfants, mais c'est tout à fait la même chose. Et puis, ce qui nous intéresse à travers cela, eh bien, c'est de développer chez les élèves des représentations et des attitudes positives de la diversité linguistique, et c'est les ouvrir à cette diversité linguistique. Cette diversité n'est pas donnée, elle est présente, mais elle est encore bien plus large à travers le monde. Et aujourd'hui, il nous semble vraiment important de pouvoir développer une culture plurilangagière chez les élèves. Alors, ce que nous voulons aussi à travers cela, c'est développer les capacités d'écoute des enfants, de reconnaissance, effectivement, de langues diverses, d'analyse, de réflexion. Et vous voyez que là, nous sommes pas mal sur les questions métalinguistiques. Et tout à l'heure, je vous disais que l'aspect comparatif, discussion, observation, font que nous sommes dans le langage de type réflexif, réflexion. Et ce langage et ces discussions se passent en français. Et vous voyez l'intérêt de développer ces discussions avec les enfants déjà jeunes. Et puis, une des questions, c'est effectivement modifier les pratiques pédagogiques concernant les langues. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un peu toutes les questions que l'on se pose. Et Madame l'a parlé tout à l'heure, on a parlé au cours, juste avant la pause, sur le ch'ti. Est-ce qu'il y a des langues interdites en classe? Est-ce que toutes les langues sont permises en classe? Et là, la question, elle est, qu'est-ce que nous faisons de cela? Elle n'est pas, c'est permis ou c'est accepté, c'est évidemment selon le moment, ce que l'on en fait, et pourquoi elles existent ou elles peuvent coexister dans la classe à certains moments. Je reprendrai un exemple là-dessus. Développer la curiosité des enfants, très important. Je me souviens que dans les recherches, on disait souvent, finalement, les langues, ça serait extraordinaire, que ça soit aussi intéressant qu'un jeu de Lego ou que les animaux d'Afrique. Mais que ça soit vraiment une curiosité autour des langues, tout ce que ça peut apporter, toutes les discussions qu'il peut y avoir là autour et toutes les activités que l'on peut faire. Et puis, c'est vrai que cette façon de travailler sur les langues, eh bien, peut avoir, en tout cas dans la classe et dans l'environnement proche, eh bien, ces liens différents qui se créent entre groupes. Je sais que le terme communauté ne s'utilise pas comme ça. Il n'est pas là au niveau de type communautariste, mais de groupe majoritaire ou de groupe minoritaire. Et l'expérience nous montre qu'effectivement, en utilisant des langues extrêmement diverses pour les activités, eh bien, nous arrivons à cela à l'intérieur des activités. Et le défi est de se dire, est-ce que cela peut survivre à l'extérieur? Et puis accroître la motivation des élèves à apprendre des langues. Alors, j'ai envie, parce que le temps presse, de prendre deux activités que je vais tirer de ce livre que je vais vous faire passer tout à l'heure, qui s'appelle « Éducation et ouverture aux langues à l'école » et qui propose toute une série d'activités. J'ai pris le volume 1 parce que c'est le volume pour les enfants les plus jeunes et où il y a des activités clés en main qui permettent aussi de les adapter au contexte, aux situations qui sont celles que les classes vivent. Alors, je vais prendre la première activité qui est une activité pour des jeunes enfants. Et cette activité-là nous propose aussi un détour par une classe. Et dans cette classe, on va entendre tous les bonjours de cette classe en français et dans d'autres langues. Et les élèves vont voir s'ils reconnaissent des langues, s'ils en connaissent. Et puis, ensuite, quand il y aura l'écoute, vous voyez que là, on va privilégier aussi l'écoute, l'attention des enfants au bonjour qu'ils vont entendre. Et puis, ensuite, eh bien, la question qui se pose aussi, c'est de se dire, mais est-ce que nous, nous en connaissons d'autres? Est-ce que nous connaissons toutes celles-là? Nous en connaissons d'autres? Et est-ce que on irait voir dans la classe voisine si toutes ces langues y sont, s'il y en a d'autres? Quel est l'environnement linguistique dans lequel on est? Et très souvent, on a un corpus extrêmement vaste, mais qui n'est effectivement pas seulement les corpus des enfants dans l'école, qui est plus vaste, parce qu'on a encore une autre classe là, avec des enfants qui parlent d'autres langues. Alors, ensuite, discussion autour de ces bonjours, et tout un travail à l'oral et à l'écrit qui peut se faire sur les étiquettes des langues. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il y en a qui sont proches les unes des autres? Et puis, est-ce qu'on peut effectivement comparer certaines langues? On peut, par exemple, voir celles qui s'écrivent en langue latine, celles qui ont d'autres sortes d'écriture, d'autres systèmes graphiques, et puis tout ce travail qui peut se faire à ce niveau-là. Alors, dans cette... je vais vous mettre ici, là, on a... Ah, mais là, on a pas... Dans celle-là, là, que j'ai là... Voilà. Il n'y a pas d'autres sortes de systèmes graphiques que le latin, mais parfois, on en a d'autres. Alors, voilà, on a tous ces bonjours, et puis les enseignants, eh bien, en font souvent des étiquettes, des discussions avec les élèves. À la fois, on les a écoutés à l'oral, et ensuite, eh bien, on va pouvoir, à l'écrit, trouver des éléments qui, parfois, sont un peu identiques. Vous savez que les enfants, d'abord, ils prennent la première lettre, par exemple, en voyant qu'en Corse, en espagnol, en galicien, eh bien, tous ces bonjours commencent par B. Et puis, ensuite, on verra plus au milieu, on a l'italien qui va aussi commencer par B, et le romanche, etc. Donc, on va voir, il va y avoir tout un travail qui va se faire avec les enfants pour un certain nombre de langues. Alors, disons que ça, c'est une première mise en bouche, on pourrait dire, autour de ces activités qui veulent à la fois permettre d'ouvrir les enfants à des langues extrêmement diverses, de leur montrer effectivement l'intérêt de s'intéresser à ces langues, et puis de pouvoir les manipuler et y travailler. Alors, je vais prendre une autre proposition, qui est celle toute bête, vous me direz, de Frère Jacques dans différentes langues. Pendant que je le cherche, vous dire pourquoi je vais le reprendre, c'est que dans ce livre et dans les documents qui l'accompagnent, nous avons en tout cas une dizaine de frères Jacques, et l'intérêt, c'est à la fois de découvrir des frères Jacques dans des langues que personne ne connaît, et puis d'avoir des langues, pour certaines, que des enfants de la classe connaissent, et puis de jouer entre ces langues et le français. Et là, c'est une des questions qu'on a posées à plusieurs reprises, c'est en fait la place de la langue commune. Il y a des langues extrêmement variées, on aura des frères Jacques multiples, il y a des langues que connaissent certains élèves, et ce qui est toujours intéressant avec les jeunes enfants, et pas seulement avec les jeunes d'ailleurs, c'est la marque quasiment physique qu'ils ont quand ils entendent leur première langue. Et puis, l'enseignant n'oublie pas que nous sommes dans une classe où le français est la langue commune, et la langue commune revient régulièrement entre les langues qui proviennent d'ailleurs. Et là, c'est une question effectivement qui se pose, la question du lien entre le français, la langue scolaire, et puis les autres langues, qu'elles soient des langues parlées par des élèves de la classe ou des langues autres. En fait, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue la nécessité de l'ouverture à d'autres langues qui ne sont pas seulement celles de la classe, parce que cette ouverture est celle de tous les enfants. Il ne faut pas perdre de vue la reconnaissance des premières langues des enfants. Et puis, il ne faut pas perdre de vue la langue commune qui se construit. Et je vous le disais tout à fait il y a quelques minutes, cette langue commune est celle dans laquelle se discutera toutes ces découvertes que font les enfants autour des langues. Bien sûr que c'est selon leur possibilité langagière, mais ce qui est important aussi, c'est ces discussions, ces dialogues qui vont se dérouler, et afin que chacun puisse comprendre, il est bien entendu que la langue commune va être favorisée. Mais une autre question qui se pose, parce qu'on l'entend quand même et des enseignants sont préoccupés par cela, est-ce que le fait de faire entrer dans la classe des langues différentes autres que celles que les élèves parlent, est-ce que toutes ces questions autour des langues ne vont pas finalement semer la confusion chez les enfants? Alors, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, ça n'est pas quelque chose que nous avons vu, que cette confusion qui aurait lieu parce qu'on travaillait sur de nombreuses langues. Et puis, ce que nous n'avons pas vu, c'est le fait que le français puisse être prétérité parce que il est accompagné par d'autres langues. C'est vrai que des enseignants parfois sont aussi préoccupés en se disant mais ces langues dans la classe, est-ce que ça ne va pas être un obstacle à l'apprentissage du français? Ce qu'on a remarqué ou ce qu'on a observé très fréquemment, c'est que développant la curiosité pour les langues et développant l'ouverture et la reconnaissance, c'est plutôt un nouvel investissement pour la langue commune qui apparaît. Mais là, il nous faut encore un certain nombre de recherches, mais pour le moment, les observations que nous avons montrent qu'il y a plutôt un effet levier aussi pour les apprentissages qu'un effet obstacle. Alors, effectivement, si je prends... Frère Jacques, nous en avons parlé, je n'ai pas besoin de vous mettre les différents frères Jacques sous la ou les dizaines de frères Jacques. Ce qui est aussi intéressant avec frère Jacques, c'est que nous l'avons mis dans ce bouquin, justement, surtout pour cette alternance entre spécificité et langue commune. Et puis, on se rend compte aussi qu'autour de frère Jacques, il y a toute la question des noms des héros de frère Jacques qui sont intéressantes à discuter, que ça soit Jean, Jacob, Thiago, etc. Et puis, encore autre chose intéressante, c'est les onomatopées des cloches qui ne sonnent pas toutes de la même manière. Alors, on pourrait parler longtemps des onomatopées qui sont un sujet très, très preneur pour les enfants. Hein. Il n'y a qu'à penser au coq ou penser à d'autres onomatopées qui font tout d'un coup que même en tant qu'adulte, on est tout étonné de voir que les humains ont tellement de créativité par rapport à leur propre langue pour tous les cris d'animaux, par exemple, qui sont un fait linguistique très intéressant, cette onomatopée qui est entre l'arbitraire et puis la réalité concrète, hein, le cocorico, kikiriki, cocodouldou, etc. On voit bien qu'en même temps, il y a une empreinte de la langue dans laquelle elle est insérée. Et puis, en même temps, il y a une part de... Oui, de sonorité un peu identique. C'est assez intéressant de voir comment ces mots sont un peu hybrides entre l'arbitraire complet et puis la réalité. Alors, d'ailleurs, ben je vais vous en mettre juste un. Là, on était avec les cloches, qui sont aussi intéressantes à voir. Ici, on est avec effectivement, les cocoricots, et vous voyez qu'on en a des séries et les activités qui peuvent se mener avec les enfants, vous les avez aussi dans ce livre que je vous fais passer. Mais, donc, toutes ces activités sont des activités d'éveil aux langues, des activités qui permettent justement cette ouverture, cette reconnaissance et qui permettent aussi, malheureusement je prendrai plutôt l'écrit avec ma suite, mais qui permettent aussi par exemple de travailler sur l'écoute et sur l'écrit. Je vous prends juste cet exemple-là où nous avons une histoire de petit cheval qui se trouve... Dans l'ouvrage, et puis ce petit cheval est là en plusieurs langues, hein, en arabe, en français, en tamoul, je crois, en chinois, en anglais, et puis c'est en grec. Vous pensez que c'est en grec ? C'est en grec. Et dans toute l'histoire, ces langues sont présentes, qui ne sont pas forcément des langues de la classe d'ailleurs, hein, qui sont des langues qui sont proposées et avec des jeux effectivement de reconnaissance, des jeux d'étiquette, les enfants, après avoir écouté les différentes langues, vont aussi y travailler, reprendre les titres, les remettre avec le corps du texte, faire des liens terme à terme, ou bien en découpant le texte et en ayant le titre, en ayant des modèles à côté d'eux sur le titre, sur le texte, pouvoir le reformer. Enfin bref, toutes sortes d'activités qui vont faire fonctionner à la fois l'écoute et puis l'écrit. Alors, voilà pour les... Je vous passe aussi ça ici, qui sont les feuilles qui vont avec. Voilà les activités d'éveil aux langues. Vous dire que l'éveil aux langues, là, je vous en ai parlé pour les jeunes enfants, mais nous avons deux volumes d'activités qui vont jusqu'à 14 ans, 15 ans, à peu près, des activités qui permettent aussi d'avoir des activités d'éveil aux langues à côté de l'apprentissage des langues. Mais on est vraiment là sur la réflexion, la comparaison, la manipulation. Je vais un peu vite, je suis désolée. Je vais vous faire passer encore la troisième chose qui accompagne cette éducation et ouverture aux langues à l'école. Nous avons eu le souci d'aider les enseignants à travailler et nous leur avons... Ce qui était intéressant quand même, c'est qu'ils sachent d'où venaient les langues qui étaient proposés dans les activités, par exemple, dans les CD qui sont aussi dans les bouquins, et nous avons fait un document qui reprend les 69 langues, je crois, que nous avons dans les documents, et pour chaque langue, nous avons mis quand même une description de cette langue pour que les enseignants sachent à la fois de quelle langue il s'agissait, où elle était parlée, etc. Voilà. Alors, je crois que nous allons passer maintenant, à moins qu'il y ait des questions particulières sur ces activités. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose que nous partions dans la dernière aventure de la journée, qui est celle des sacs d'histoire. Je vous dis un mot au sujet de ces sacs d'histoire. Les sacs d'histoire, c'est un projet qui a été mis en place il y a une dizaine d'années en Angleterre, et où l'auteur a pensé qu'il était important que les enfants puissent emporter des livres de l'école à la maison. Aspect tout simple. Et puis, il s'est avéré, et justement, pendant les périodes d'entrée dans la langue écrite. Et puis, ce projet a passé au Canada, au Québec. Et là, les Québécois se sont dit que c'était un projet intéressant, mais qu'il fallait, pour la situation et le contexte dans lequel ils sont, eh bien, prévoir des livres bilingues de façon à pouvoir prêter aux familles qui le désiraient des livres où on trouvait à la fois la langue familiale et puis la langue scolaire. Et que le livre allait être ce passeur, qu'il allait incarner ces deux faces de la famille et de l'école, et qu'il pouvait comme ça créer aussi un partenariat entre l'école et la famille, sachant que la famille va... Dans la question de l'entrée dans l'écrit, il y a un côté plus affectif dans la façon d'y entrer de la part de la famille, et puis une façon plus cognitive, souvent, de la part de l'école. Et donc, pouvoir jouer de ces complémentarités pour favoriser l'entrée dans l'écrit des jeunes enfants. Alors, nous avons repris ce projet à Genève. J'étais allée au Canada et j'avais été, comme disent les Canadiennes, allumée par ce projet. Et je suis revenue. J'ai eu la chance que notre département, ministère de l'Éducation, soit intéressé. Et vous verrez, je vais vous passer une petite vidéo de 10 minutes où vous verrez à la fois ce que ce projet sac d'histoire où les enfants apportent chez eux à tour de rôle un livre avec un livre bilingue la plupart du temps et un CD avec en général la même histoire en 8 ou 10 langues et un jeu familial, un jeu de famille construit en général par des groupes de parents et puis une surprise, une marionnette pour jouer l'histoire, un chapeau si c'est une histoire de cow-boy pour que les enfants puissent faire l'histoire, enfin, etc. Une surprise. Et ce sac est organisé avec les parents pour que le sac qui va passer 3 jours, 4 jours dans la famille, eh bien, arrive un moment favorable où les parents, un grand frère, une grande sœur, puissent avoir un moment avec l'enfant, dans la mesure du possible, pour découvrir le sac et puis pouvoir devenir effectivement aussi porteur de cette entrée dans l'écrit chaque fois que cela est possible. Et puis, si nous avons ce CD en de nombreuses langues, c'est effectivement, si les parents ne pouvaient pas, pour des raisons d'illettrisme par exemple, c'est qu'ils ne se trouvent pas en défaut de ne pas pouvoir faire quelque chose avec leurs enfants, et ils peuvent donc écouter l'histoire qui leur est proposée justement dans différentes langues. Voilà, donc vous allez voir à Genève, je vous comment ce projet est reçu par la famille, et vous verrez les différents aspects qu'il comprend.
Alors, si dans le fond vous ne voyez pas bien, ben on rebaissera les rideaux. Hein.
Je pense que nous, parents, on a notre place dans l'école. On a notre place dans l'enseignement.
C'est une couverture. Vous voulez que je vous mette ?
C'est la famille.
Un sac.
D'histoire.
Bravo, Aïda.
Langue.
Alors, c'est toi qui commence.
Il y a un jeu, il y a un glossaire, et puis il y a une petite surprise.
Ah, regarde. Ah, c'est quoi ça?
L'idée, c'est de ce sac d'histoire, c'est de favoriser l'interaction entre les parents et les enfants. L'idée, c'est que justement, il y ait des échanges à l'intérieur de la famille, entre les enfants et les parents, dans le concret.
Voilà Alice, elle est comme ça, tout simple, comme toi et moi. À qui je t'assassine, elle est assise.
Pourquoi l'enfant apprend à lire? Moi, je veux dire, tout être humain a besoin d'un côté affectif et d'un lien, en fait, d'un intérêt pour quelque chose. Et là, c'est vrai que le lien par ce sac d'histoire est fait. Et là, les parents s'occupent de leur enfant. Ils ont un moment consacré que pour l'enfant, sans faire 36 autres choses, puisqu'ils jouent, ils écoutent l'histoire et tout. Et ça, l'enfant est mis en valeur. Et il se sent, je sais pas, porté par tout ça.
Qu'est-ce qu'on a dans le sac?
Moi, je pense que les enfants, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus à la maison, que les parents s'intéressent à ce qu'ils font à l'école. Et c'est vrai que le sac d'histoire, c'est un bon moyen de faire ce lien entre la famille et l'école, où on fait quelque chose ensemble à la maison qui vient de l'école, et puis ben voilà, les parents s'intéressent à ce que je fais.
Je crois voir un serpent qui me poursuit.
À travers la jungle, on peut dire aussi un créole, namitan ragbois.
On s'est aussi aperçu qu'en favorisant la langue maternelle, en enrichissant aussi la langue maternelle, on enrichissait aussi le français en même temps.
Il y a beaucoup de parents qui hésitent à parler la langue de la famille, la langue maternelle à la maison, parce qu'ils ont peur que les enfants n'apprennent pas bien le français. Et nous, on essaye de leur dire qui peuvent le faire, mais le fait de ramener à la maison un sac d'histoire en français et en albanais, ben, les gens ils se disent, ah ben, si l'école le fait, alors ça veut dire que nous, on peut le faire aussi.
Ça qui me fait aussi un grand plaisir, c'est parce que j'ai trouvé un créole. Parce que des fois, les gens là, ils disent que le créole, c'est pas vraiment une langue. Quand j'ai trouvé le livre d'histoire en créole, ça m'a rassurée. Ça pouvait aussi à mes enfants, ils ont la possibilité de parler le créole.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Fiona pensait que la lecture, on en avait besoin que pour l'école, pour répondre à des questions par rapport à des exercices. Tandis que depuis que les salles d'histoire rentrent dans la maison, malgré tout que je lis des histoires depuis toute petite, à mes enfants en fait, hein, c'est montré de manière ludique. C'est quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est un moment qu'on passe ensemble pour... Oui, en famille, oui, ça nous rassemble. C'est elle qui apporte ce sac d'histoire à la maison. Donc en fait, c'est elle qui nous fait découvrir une histoire. Et disons que elle a envie de savoir lire parce qu'elle a envie de nous la raconter, l'histoire. Qu'est-ce que tu vois?
Tu sais.
Dis-moi.
Un chameau.
Chameau.
Un cactus.
Je pense que nous, parents, on a notre place dans l'école. On a notre place dans l'enseignement. Ça veut dire, autrement dit, qu'on n'est pas simplement à la maison à s'occuper de l'éducation. Et puis, il n'y a que les maîtresses ou les maîtres qui ont le savoir et qui peuvent inculquer le savoir. C'est vraiment nous impliquer dans l'apprentissage de la lecture. On sait lire dans une langue ou dans une autre. Par exemple, pour d'autres parents qui parlent une langue étrangère, ils peuvent transmettre le savoir, une culture, des origines, des racines. C'est quelque chose qui est très important.
Le soap, le champs, le soleil, can it delight, ok, et hop. Et quelle fille, Yaraqa?
Je crois qu'elle est obligée de partager quelque chose avec moi parce que ça vient de l'école. Et elle le fait en plus avec plaisir parce que normalement il y a des enfants qui n'aiment pas trop lire, qui n'aiment pas trop écrire. Mais là, elle le fait avec plaisir avec moi. Et ça, c'est bien. Et après le premier sac... Elle a commencé d'avoir l'envie de lire. Alors, on a commencé d'acheter des livres pour commencer de faire la lecture. Des enseignants, mais maintenant on aimerait aussi que la chose apprenne du côté des parents, puis qu'ils se sentent investis dans ce projet et que ben, on est partante pour tout ce qu'ils proposent et qu'ils puissent venir d'eux en fait.
خرس کوچک قهوه‌ای میگوید نه. مامان میگه همه چیز رو مرتب کن. نه، کارم تموم نشده.
Une des activités générées par l'idée de sac d'histoire, c'est une soirée avec des parents pour créer du matériel pour un futur sac d'histoire.
Voilà. En fait, c'est important de l'ouvrir ce sac quand on revient.
Merci.
Ouh, il y a un petit post-it. Je vous le lis.
Oui.
Donc ta maman a écrit, ou ton papa, je ne sais pas, qui a écrit.
C'est
Bénédicte, la maman de Mira.
Maman, qu'est-ce que tu as préféré dans le sac d'histoire?
Le livre.
Le livre? Pourquoi?
C'est parce que quand ma mère elle avait lu le livre en égyptien.
Le chat, c'est le soleil.
Et tu as compris quand elle a lu?
Oui.
Oui, tout compris. Et est-ce qu'elle l'a lu en français aussi?
Oui.
Les deux langues.
Tout le monde a rapporté son glossaire, donc même ceux qui n'avaient pas une langue maternelle autre que le français l'ont rempli en français consciencieusement et on a pu discuter chaque fois qu'ils revenaient avec un glossaire.
Et après, Nathalie nous donnait une feuille et ils ont écrit en français et après nous on devait écrire à notre langue.
Le premier glossaire, une petite a ramené en italien alors qu'elle ne parle l'italien qu'en vacances et avec ses grands-parents.
Et elle s'est rendue compte, en fait, par le glossaire, que sa langue pouvait être aussi écrite.
Alors, cette table d'histoire, c'est un prolongement du sac d'histoire. Et là, on a affiché tous les livres que les parents lisent à la maison à leurs enfants. C'est pour ça qu'on a plusieurs livres dans des langues différentes. Et quand les parents ont lu un livre, moi, je photocopie la couverture de ce livre et ils viennent afficher pour pouvoir voir les différents livres qui sont lus.
Figurez-vous qu'autre jour, il y avait grand-mère qui était dans sa cuisine. La soupe monte, puis elle se dit, c'est le bon moment. Alors elle appelle grand-père. Hé, grand-père, puisque tu es au jardin, ramène-moi le plus gros radis, que je puisse en faire une bonne soupe. Alors grand-père, qui est là, en train de bêcher, transpirer, travailler, enlever les mauvaises herbes, il se dit, bon.
On a eu pendant cette année aussi l'intervention d'une ELCO, une enseignante de langue et de culture d'origine en albanais. Et puis ils ont travaillé une histoire, le gros radis, mes élèves et puis les élèves de la classe parallèle, puis d'autres encore. Et cette enseignante était là ce soir-là aussi, elle a raconté cette fameuse histoire du gros radis. Et les enfants de raconter des grands bouts d'histoire avec l'enseignante en albanais.
Je crois une basque.
Du chien,
du chat, Bessa,
et les parents complètement allumés, je dirais, parce qu'ils entendaient leur enfant parler albanais.
Mansa, Mansa, Mansa.
C'était juste magnifique. Sont venus aussi raconter des histoires à des enfants, donc dans leur langue. Avec les parents sont différentes, ce ne sont plus des relations, je dirais hiérarchiques peut-être, hein, comme les parents le voient aussi, mais ce sont d'autres relations que l'on tisse avec les parents. Et je pense qu'avec ces sacs d'histoire, et surtout à l'école élémentaire, on sème en fait la petite graine sociale, justement les relations famille-école, et donner plus d'importance aux parents.
Thank you.
Merci d'avoir remis la question des familles et de la question de l'acculturation, effectivement, et cette question de la première entrée en maternelle, qui est si importante au jour où on parle de prévention d'illettrisme et effectivement de difficultés d'apprentissage. Moi, je travaille sur l'éducation prioritaire. Des expériences de cet ordre-là, moi, j'en ai mené un certain nombre autour de raconter des histoires en français, hein, effectivement pas au niveau de plusieurs langues. La difficulté qu'on rencontre toujours, mais que j'imagine les collègues ont sûrement autour de la table plus de choses à raconter que moi autour des enjeux de cahier de vie et autres outils qui circulent entre l'école et la famille, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de la question de ce rapport à l'écrit qui est fragile, de voir quand il n'est pas absent, enfin quand il n'est pas absent au sens lettré du terme, hein, je dis pas à la langue évidemment. Voilà, comment on ne crée pas des situations de rupture et de, comment on va dire, de discrimination, d'appui sur des choses qui font mal, pour parler un peu rapidement, pour des enfants, que le sac il reviendrait pas ouvert, sans mots à lire. Enfin bon, voilà, c'est des questions, j'imagine, que les collègues autour de la table se sont posées sur d'autres outils, hein, qu'on questionne quand même beaucoup, nous, en éducation prioritaire, parce que, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de lien entre la famille et l'école, surtout pas. Mais comment on le construit pour effectivement que ce soit de la langue, ce soit de partage d'expérience et pas de, vous voyez, nous, notre histoire elle s'écrit comme ça et c'est comme ça qu'il faut la lire, quoi. Je sais pas si je suis claire.
Oui. Je pense que quelques projets que l'on fasse, on se pose cette question. On ne peut plus ne pas se poser cette question quand on met quelque chose en place. Et si vous voulez, là, je ne vous dis pas qu'on a réglé la question, hein, ça serait trop simple de se dire simplement que nous avons réglé la question, mais disons qu'on s'est donné trois moyens pour essayer de que les enseignants puissent rencontrer les parents un peu invisibles, mais pour des raisons qui leur sont souvent propres et des bonnes raisons. Donc, la première question qu'avaient aussi discuté les Montréalais, c'était le fait justement de se dire ces livres arrivent, et dans la famille, on sait qu'il y a une question autour de la lecture qui se pose. On va leur donner la possibilité d'avoir qu'on puisse écouter l'histoire. Hein. Alors vous me direz que c'est un pis-aller, mais qu'on puisse l'avoir dans la langue, parce que les enfants en ont envie, etc. Et qu'on ait ce que vous avez vu qu'une enseignante faisait avec une maman, c'est-à-dire qu'elle faisait aussi le livre, elle traduisait le livre avec la petite clochette pour tourner la page, etc., de façon à avoir le livre si les parents veulent s'en servir, en ayant cette possibilité de l'écouter et de tourner les pages au moment où on entend la petite clochette. Et puis, ça, c'est une chose. On a essayé cette manière-là de se dire, il faut qu'on trouve une manière. Notre projet, c'est pas de déqualifier les familles à travers ça. Ça, c'est vraiment le pire. La deuxième question qui s'est posée, c'était autour des soirées que vous avez vues. Où, dans ces soirées, la plupart du temps, c'est les personnes qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça, ça a été une grande découverte pour les enseignants. Pourquoi ? Parce que ça se fait à l'école, ça se fait dans le quartier. Pour plusieurs femmes surtout, vous avez vu un ou deux hommes, mais surtout pour les femmes, parfois, c'est une des possibilités de sortir, et puis on va à l'école, c'est un lieu sécurisé, il n'y a pas de problème, on peut aller y passer la soirée, voilà. Donc, il y a des mères surtout, pour qui l'école est très étrangère, en fait, et qui sont venues à ces soirées et qui ont créé, parce qu'à ces soirées, les enseignantes y sont aussi, donc qui ont créé le lien entre les enseignantes et les parents. Et puis, alors bien sûr, vous prenez le post-it. Là, le post-it, il y a des personnes de tout le monde ne renvoie pas un post-it. Mais ce post-it, on vient de regarder un peu tous les post-it qui ont été rapportés dans différentes classes. Il y a des fois un mot. Hein. On a vu « ok ». C'est tout. On a vu écrit en arabe et en dessous une autre écriture en français. Donc dans la famille, on s'est dit bon, peut-être que les parents ont écrit, je ne suis pas au courant de tout, les parents ont écrit, le père ou la mère a écrit en arabe et peut-être qu'il a demandé à un enfant de traduire, un plus grand, pour l'avoir aussi en français. Et si vous voulez, parmi ces petits liens entre les familles et l'école, ce post-it, on s'est rendu compte, bien sûr pas pour toutes les familles, mais qu'il n'avait rien de formel. Il était tellement informel, ce petit bout de papier, qui permettait qu'on y mette, mais trois fois rien, ou bien en remplir trois si on voulait, mais vraiment... comme s'il était un peu à disposition, ce petit post-it. À disposition, sans qu'on fasse une lettre bien écrite avec « chère maîtresse » ou « je ne sais pas, madame la directrice », un petit mot, et voilà. Et maintenant, on n'a pas tout réglé non plus. On a cherché ces petits moyens. Et puis alors, vous avez vu la soirée là où les enfants racontent une histoire en albanais. Moi, à celle-là, j'y suis allée. Je crois que les enseignantes, il y avait 5 classes. Je crois que que je vous dise vraiment vrai de vrai, je crois qu'il y avait 8 parents qui n'étaient pas là. Parce que c'était très, comme ça, populaire, on allait à l'école, on racontait des histoires, il n'y avait rien, il n'y avait pas, on n'allait pas à l'école parce qu'on allait discuter avec l'enseignante particulièrement, vous voyez, c'était tout à fait, puis ça se passait à 7 heures du soir, je crois, Et ça s'est déroulé... de façon extrêmement positive. Moi, c'est vrai que quand j'ai entendu les enfants, tous ces enfants qui répétaient en albanais le refrain, surtout, je me suis dit, je me demande comment les parents réagissent aussi. Hein, à l'école, est-ce qu'on apprend l'albanais, finalement, ou bien est-ce qu'on apprend le français? Et puis, franchement, j'étais complètement surprise de voir les réactions des parents. Bon, c'est vrai que à Genève, si vous voulez, je crois que c'est la plus grande ville du Kosovo hors Pristina. Mais donc il y a effectivement beaucoup de personnes du Kosovo. Alors, on n'a pas tout en main. Mais vraiment, chaque fois, en tout cas, ça, c'est mon souci. Chaque fois que je vois que quelque chose ou que j'entends qu'un projet déqualifie la famille, je me dis qu'il faut qu'on trouve une solution. Il n'y a pas, c'est pas possible parce qu'il n'a plus de raison d'être.
Sans prétention aucune, ce genre de projet, effectivement, moi j'ai eu l'opportunité de le mener il y a déjà une vingtaine d'années, hein, entre 1992 et 2002, sur Saint-Fons, quand j'étais enseignante, hein, à Saint-Fons à ce moment-là, sur deux plans, autour des albums et des histoires, mais aussi autour justement des chansons et comptines. Nous avions d'abord démarré autour des comptines et des chansons, justement, pour qu'il n'y ait pas le rapport à l'écrit, hein, dans un premier temps, avec à l'époque des cassettes audio, pas des CD, mais des cassettes audio et puis des fiches. Travail avec les familles pour effectivement valoriser la culture et la langue d'origine, la langue première. Nous l'avons fait aussi autour des albums littérature jeunesse, de la toute petite section, puisque nous avions à l'époque aussi des classes que de tout petit, donc de la toute petite section à la grande section, voire sur le CPCE1 pour les albums. C'est posé quand même plusieurs difficultés avec les familles. La première était que quand nous valorisions effectivement la langue et la culture d'origine de la famille, ça se passait très bien. Mais dès que nous étions sur du pluri et pas que du bi, entre par exemple turc et français, arabe et français, etc., mais quand on était sur ce pluri, tout de suite, nous étions confrontés à de nombreuses difficultés. La première étant que les familles turques disaient « il n'est pas question que mon enfant chante en arabe » ou « il n'est pas question pour les familles portugaises que mon enfant chante en turc ». Donc il y a eu un très très gros travail à mener auprès des familles pour cette ouverture là aussi. Après plusieurs années, mais vraiment plusieurs années, nous avons réussi à mener une chorale parents-enfants où parents et enfants chantaient effectivement Frère Jacques dans X langues, turc, arabe, anglais, portugais, y compris des langues donc, comme l'allemand ou l'italien, qui n'étaient pas du tout des langues présentes, on allait dire, à l'école. Donc, un travail riche, mais vraiment de longue durée, de très très longue durée. Après, pour moi, se pose toujours aujourd'hui la question, je suis partie de cette école, je suis conseillère pédagogique aujourd'hui, se pose toujours cette question qui est, oui, beaucoup de valorisation des familles à travers leur culture et leur origine et leur langue. Bien sûr, j'adhère complètement et toujours à ça. Valorisation, empathie, beaucoup de travail pour faire en sorte que cette langue puisse continuer, leur langue puisse continuer à être connue et reconnue au sein de l'école et les autres aussi. Maintenant, comment réussir à combler cet écart qui existe toujours, comment construire suffisamment de choses avec l'ensemble de ces familles pour combler en fait les inégalités socialement et économiquement. Tu parlais de marqueur social, je parlerai de marqueur économique et social. Comment réussir à combler ces inégalités socialement et économiquement produites? Parce qu'au bout du compte, oui, les élèves parlaient, chantaient, ne lisaient pas, mais on leur lisait, enfin, pour les plus grands, après, ça, c'est autre chose, dans différentes langues. Mais au bout du compte, eh bien, dans leur propre langue, comme en langue française, l'écart à la norme était toujours aussi important. Alors, il y avait des choses très belles qui valorisaient tout le monde, mais quid de ces apprentissages qui font qu'après, eh bien, voilà, ce sont des élèves, des enfants, des adultes qui sont en réussite quelque part. Et moi, cette question, elle reste toujours fondamentale et j'ai toujours pas de réponse.
Oui, je voudrais juste dire deux mots. Alors, ça sera un peu plus l'objet du stage de la semaine prochaine, mais je voulais en dire deux mots. On a tous, ben, je veux dire, j'ai travaillé un peu comme toi pendant plus de 15 ans dans une école en ZEP, à se poser toutes ces questions, ces problèmes, à monter plein de projets, etc. Et je me rends compte petit à petit qu'on a tendance à se dire que les inégalités de réussite des enfants, elles sont liées à ce qui se passe à l'extérieur et aux inégalités sociales à l'extérieur. Je crois de plus en plus. Pour avoir travaillé depuis 4 ans sur un groupe de réflexion sur les questions de discrimination, de production des inégalités à l'école, que c'est nos propres processus, nos propres fonctionnements qui contribuent en tout cas pour une large part à produire ces inégalités. Et je pense que l'intérêt de ce genre de projet, qui est effectivement de revaloriser les familles et le regard qu'elles ont sur l'école, il peut avoir un intérêt à condition qu'on se pose aussi la question de comment ça change le regard des enseignants sur les familles et comment on arrête d'avoir ces pensées, ces discours qui sont encore prégnants partout où on passe, de disqualification des familles d'origine étrangère ou des milieux populaires. Et de réfléchir sur quels processus sont à l'œuvre dans l'école, dans nos classes, dans nos fonctionnements institutionnels et qui produisent une bonne part de ces inégalités. Voilà.
Moi, je voulais aussi réagir. Bon, c'est ce que tu as expliqué. C'est à la fin, c'était assez désespéré. C'est-à-dire, c'était comme si quid des écarts, comme si. Alors peut-être qu'on peut pas l'évaluer, mais entre comme si ça avait servi à rien. Je caricature peut-être un peu, mais voilà. Non, mais il y avait quid des écarts qui restent malgré tout, qui sont toujours là. Et le fait, quand même, je rejoins ce que dit Stéphane, mais l'idée quand même de reconnaître, ou le mot reconnaître les langues, ou accueillir, ou des mots comme ça, quoi, qui sont aussi des concepts de travail, est-ce que quand même ça n'a pas résolu les problèmes de la société dans de l'école, mais est-ce que ce n'est pas déjà une étape pose la question. En quoi ça a pris des années, ça a pris longtemps, ça a pris... mais est-ce que c'est... Ou est-ce que ça doit être continué? Est-ce que ça doit être développé? Est-ce que les nouveaux enseignants qui n'ont pas de formation ou plus beaucoup de formation, est-ce que c'est des pistes qu'il faut continuer? Tu vois, à travers ton expérience, ce que je ne comprends pas, c'est... Est-ce que c'est complètement... voilà. Quelle dynamique ?
Je ne remets pas en cause ce travail-là et cette expérience que j'ai menée, ni ce que l'on a vu là, bien au contraire. Je dis, oui, très bien, mais attention, nous, à l'époque, notre objectif, on pensait réellement qu'en valorisant la culture et la langue d'origine, qu'on allait pouvoir, j'allais dire, effectivement, avoir ce levier sur la L1 pour que la L2 puisse être de plus en plus... Vous parliez de L1, L2 faible, mm-hmm. L1, mm-hmm. L2 forte, hein, tout à l'heure, mm-hmm. Dans votre présentation. Eh bien, nous espérions qu'en valorisant mm-hmm. la L1 au maximum, la L2 deviendrait de plus en plus forte. Alors, oui, bien sûr, il y a eu des progrès, tout à fait, mais pas autant que ce que l'on espérait. Alors, si nous n'avions pas mené tout ça, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu à ce niveau-là, bien évidemment. Mais comment faire encore mieux, encore plus, pour que la L1 et la L2 soient au maximum, quand on est effectivement dans des milieux populaires? C'est pour mm-hmm. ça que je parlais de marqueurs social et économique. Mm-hmm. Et loin de moi l'idée de penser que les inégalités socialement produites ne sont qu'à l'extérieur de l'école. Je pense bien évidemment qu'il y a, des inégalités socialement produites à l'extérieur de l'école et que certains de nos fonctionnements ne font que les aggraver, effectivement, mm-hmm. dans le cadre de l'école. Mais ça serait...
Alors, il y a Isabelle et après Jocelyne.
L'interculturalité, alors je l'ai appris après en travaillant avec mes collègues du CASNAV, c'est que l'interculturalité, elle se construit aussi sur la conflictualité. Mm-hmm. Et que c'est tout n'est pas rose au monde des bisounours. Et qu'effectivement, quand j'avais fait un travail avec les mamans turques et que les autres n'avaient pas voulu venir, et là je me suis dit, attends, à quoi? Et même si j'avais mis tout le monde, je veux dire, les mamans blacks, elles ne seraient pas venues parce que c'était les mamans turques, parce que c'était les enjeux de la façon d'habiter le quartier, de se vivre ensemble. Et je pense, par contre, je reste persuadée que toutes ces expériences-là sont nécessaires, mais si elles s'accompagnent de la prise de conscience jusqu'à la question du geste professionnel, et c'est là que l'intervention de ce matin, moi, m'intéresse, que peut-être le travail qu'on fera demain après-midi, sur qu'est-ce qui, dans nos pratiques au quotidien, dans nos missions d'enseignants, va générer, parce qu'on est porteur de ça, puis on le disait avec ma collègue, c'est les jeunes collègues qui arrivent, ils vont encore être plus loin, parce que M2, parce que plus du tout issus des mêmes milieux sociaux et parce que quasiment pas de formation à la base, en tout cas pas la formation de cet ordre-là. Et donc, voilà, c'est vrai, effectivement, on a en germe peut-être encore plus cet écart-là. Donc si on ne travaille pas sur ce qu'on fait au quotidien dans notre classe, dans notre projet d'enseignement, toutes ces actions-là, elles nous font plaisir parce que c'est des beaux moments de vivre ensemble. C'est des beaux. Moi, j'ai plein d'émotions dans la tête sur ces moments-là. Mais pour autant, Quand je retrouve en quatrième, puisque je travaillais sur l'ensemble, que je suis restée un certain temps, le même gamin en rupture scolaire totale et en décrochage, alors que je me rappelais de lui en petite ou en grande section, en CP, super investi dans le machin, c'est vrai que ça faisait mal au ventre, quoi, parce que voilà, quelque part, on s'était fait plaisir à un moment donné, quoi. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, elles restent en... Je crois qu'on commence à avoir un peu plus d'outils qu'on en avait à ce moment-là, mais bon, voilà, il y a ces deux enjeux-là, quoi. La conflictualité des langues, quand même, qui est quand même pas si simple. Et puis nos boulots, quoi, au quotidien.
On a pendant longtemps développé l'idée que de les mettre dans une BCD, ça allait les sortir lettrés et avec un accès facilité à la compréhension de texte. Et on sait bien qu'en fait, ce qui manque, quels que soient les projets, c'est les mots, et ça revient sur ce qu'on a dit ce matin, c'est les mots qu'on va mettre dessus, c'est l'explicitation des enjeux, de ce qu'on a derrière. Et je me dis presque de la traduction entre ce travail qu'on fait et comment on le traduit en apprentissage scolaire. Et contextualiser. Et c'est vrai, cette notion d'éponge, je trouve qu'elle perdure beaucoup et que si on fait que tremper, il n'y a qu'à essorer après. Hein.
Mais vous posez des questions éminemment importantes et qui sont vraiment au cœur de l'activité scolaire. Et puis, à la fois de cette tension entre la volonté de vouloir modifier ce milieu, et puis, puis sa résistance, et puis une institution large. Enfin bref, on est au cœur d'énormément de questions. Mais Je pense effectivement que nous n'avons pas trouvé, parce que malheureusement pour les questions de pauvreté, d'inégalité dont vous parliez au niveau social, les questions que vous posiez, sans doute que l'école peut en faire un bout, mais on sait bien que il y a un changement alors plus total qui doit se faire. Hein, pour véritablement bien qu'en fait les enfants finalement puissent être ces lieux de changement quelque part. Quand je vous entends, je me dis mais qu'est-ce qui est de effectivement du professionnel qui se rend compte que dans l'école aussi, il y a souvent discrimination ou il y a déqualification, toutes ces questions-là. Alors, il y en a que nous pouvons traiter à l'intérieur de l'école. Ce matin, par exemple, il y en avait une qui était évidente, que je n'ai pas reprise cet après-midi, mais on a parlé un moment lorsque j'étais là ce matin, des évidences. Et en fait, de tout ce qui se passe à l'école, alors que beaucoup de ces choses-là ne sont comprises de peu de monde, parce que on a les évidences. En fait, chaque fois qu'il y en a une, on devrait la déconstruire pour pouvoir la reconstruire avec la classe complètement. Parce que on est effectivement dans une discrimination terrible entre ceux qui savent, qui connaissent l'évidence, et puis ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense que là, il y a un gros, gros travail à faire. On a parlé de ce travail de déqualification, aussi des familles. On a vu que ça n'était pas si simple que ça, mais c'est vrai aussi que l'école que je connais, en tout cas, pendant assez longtemps, et ce n'est pas toujours terminé, pense que ce qui ne va pas à l'intérieur est cause de l'extérieur. Et là, vous avez mis le doigt, monsieur, sur un élément très, très important. On ne peut pas simplement se décharger sur l'extérieur en disant, si on n'y arrive pas, c'est de la faute de l'extérieur, ce n'est pas ni celle de l'institution, ni la nôtre propre. Mais un des éléments qui m'intéresse, c'est dans les différentes activités proposées, que ce soit d'ailleurs dans l'éveil aux langues, dans ce projet Sac d'Histoire, dans ceux dont vous avez parlé, c'est en tout cas de ne pas avoir de projet qui soit encore stigmatisant d'un certain nombre d'enfants. Vraiment, quand on démarre un projet, ce projet est adressé à tous les enfants. Hein, il n'est pas uniquement pour les enfants qui seraient bilingues et bilingues, donc émigrés. Donc là, je crois que c'est en tout cas quelque chose qui ne faudrait pas ou plus faire. Et d'ailleurs, ça n'est pas toujours facile parce qu'on nous renvoie souvent cela en disant « Ah, ça vous intéresse, les questions des langues vous intéressent, donc, en fait, c'est des pédagogies pour enfants migrants. » Ça, je l'entends et je l'entends encore. Et je me bats la contre parce que ce n'est pas de cela, en tout cas, dont il s'agit. Absolument pas. C'est ouverture, reconnaissance. Pour certains, la reconnaissance est beaucoup moins habituelle que pour d'autres. Donc, il faut aussi que cette reconnaissance puisse fonctionner. Mais l'ouverture, le travail pédagogique... Il est vraiment adressé à tous les élèves, à tous les élèves.
Bien, je crois que les échanges ont à peine commencé, mais il va falloir s'arrêter. Tout d'abord, de remercier Christiane pour son intervention de cet après-midi. Elle avait amené beaucoup de choses qu'elle n'a pas pu travailler.
Et je regrette, j'aimerais vous dire vraiment que je regrette parce que j'ai l'impression que je suis passée un peu à côté de ce que j'aurais dû faire. Mais la vie est ainsi. Mais j'aimerais encore simplement...
Oui, je crois que le ressenti qu'il peut y avoir, est-ce que c'était déjà dans du terrain très connu ou est-ce qu'il y a eu peut-être cette sensation d'apport ou pas? Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter parce que jeudi après-midi, on aura un temps entre nous et puis on pourra un peu aussi avec décalage, quoi, parce que cette sensation, peut-être que Christine l'a eue ce matin aussi, comme ça, au déjeuner. Et moi, je crois qu'il y a d'autres moments d'échange où on mobilisera tout ça pour savoir comment ça fait écho et pouvoir te faire un retour.
Ça serait très volontiers.
Sur ton intervention.
Mais en tout cas, j'aimerais vous remercier vraiment... de la discussion que nous avons à peine emmanchée, mais j'aimerais vous remercier parce que je pense que les interrogations que vous avez, elles sont aussi mes interrogations sur plusieurs points, et le fait de pouvoir les partager encore une fois, effectivement, ça m'intéresserait avec les uns ou avec les autres de continuer la discussion. Mais j'aimerais, si vous le permettez, juste vous laisser... une phrase de Glissant qui me semble vraiment... Glissant, qui d'ailleurs vient de décéder il y a quelques mois, hein, Édouard Glissant, et à la question que je pourrais poser, est-ce que les enseignants doivent être tous polyglottes pour travailler sur ces questions, je me propose de... prendre cette question pour terminer. Ce n'est pas une question de parler des langues, ce n'est pas le problème. On peut ne parler d'autres langues que la sienne. C'est plutôt la manière même de parler sa propre langue, de la parler de manière fermée ou ouverte, de la parler dans l'ignorance de la présence des autres langues ou dans la préscience que les autres langues existent et qu'elles nous influencent, même sans qu'on le sache.